à voix nue. Toute cette semaine, Jérôme Clément rencontre Daniel Cordier. Ce soir, le temps des engagements.
Bonjour Daniel Cordier.
Bonjour.
Alors nous sommes ici chez vous, à Cannes, où vous nous recevez dans votre appartement près du Palm Beach. Et il y a longtemps que vous habitez ici ?
Non, il n'y a pas très longtemps, il y a presque 4 ans. Parce que j'ai habité pendant plus de 30 ans. J'avais une villa à Jean-les-Pins. Avec toutes les archives, enfin, il y avait un sous-sol complet avec ma secrétaire, toutes les archives, tout. Vous savez, j'avais réuni 10 000 archives venant de tous les coins du monde. Là.
Et là, vous avez décidé de réduire votre...
J'ai partagé, j'avais une bibliothèque, j'avais 15 000 livres. J'ai donné un normal sup à Lyon, le reste aux Archives nationales à Paris, et ainsi de suite.
Voilà, alors vous vous êtes installé à Cannes dans un appartement. Alors je décris rapidement l'appartement. On a une très belle vue sur la mer. Il y a beaucoup d'œuvres d'art sur les murs. On parlera de votre activité d'amateur d'art. Beaucoup de sculptures aussi. On en dira aussi quelques mots. Beaucoup de livres. Enfin, on voit qu'on est chez un homme cultivé.
C'était de la décoration.
En tout cas, votre vie s'est écoulée dans différents lieux, dans différentes maisons, dans des villes, dans des pays. On en parlera tout au long de cet entretien. Et je ne vous cache pas que je suis très, très ému, Daniel Cordier, de m'entretenir avec vous en ce mois d'avril 2013. Peu d'hommes ayant votre stature et votre histoire sont encore parmi nous, hélas aussi depuis la disparition de votre ami Stéphane Hessel. Et les compagnons de la libération sont aujourd'hui peu nombreux. Et 2013, c'est la date anniversaire de la mort de Jean Moulin, dont vous avez été le secrétaire juin 42 à juin 43, pratiquement un an, et 70 ans depuis l'arrestation, 70 ans depuis la torture et la mort de ce grand Français. Alors vous avez beaucoup écrit sur lui, vous avez écrit des livres d'histoire, et un livre plus romanesque dont on a beaucoup parlé, qui a eu énormément de succès, Alias Caracalla.
Oui, je retirais le mot romanesque, parce que c'est un livre de vérité.
Oui.
Ah oui, non, c'est pas du tout romanesque.
Vous avez raison.
C'est un livre de vérité.
C'est un livre de vérité, je disais romanesque parce que on vous voit apparaître, c'est un livre écrit à la première personne, et la façon dont vous racontez cette histoire vraie, évidemment, totalement vraie, a un côté romanesque de par votre personnage aussi. C'est ça que je voulais dire.
Merci.
C'est ça que je voulais dire.
Si nous en sommes là, alors ça commence très bien.
Alors, de ce livre a été tiré un film d'Alain Tasma, en 2x90 minutes. Cela doit vous faire un effet curieux d'être incarné par un jeune acteur et d'avoir revu ces images qui racontent finalement toute cette période intense de votre vie.
Ça m'a fait pleurer. C'est curieux parce que aucun film ne m'a fait pleurer, parce qu'il y a déjà des films qui me montrent, mais enfin, à côté Jean Moulin, plus furtivement ou plus... Mais je ne sais pas, ce garçon qui... Je ne sais pas, c'est la présence de ce garçon, c'est la manière dont il joue, c'est sa jeunesse, parce que j'étais plus âgé que lui, parce qu'il n'a que 17 ans. Mais nous faisions très très jeunes, nous étions des enfants, parce que à cette époque, enfin, les jeunes n'avaient pas de barbe, ils étaient beaucoup moins grands, nous étions beaucoup plus petits, enfin nous étions des enfants, et puis nous étions tous au collège.
Oui, c'est ce qui frappe effectivement en voyant le film, mais aussi en lisant le livre, c'est... Ce sont des très jeunes gens, quoi. Ah oui. Ce sont des enfants.
Non, mais l'armée
Et pas des héros, d'ailleurs, au départ.
Non, l'armée de Gaulle, c'était, nous étions 630 ou 640, nous étions tous des collégiens, tous.
Oui, c'est ça qui est intéressant.
Il y avait des garçons qui étaient en première, en seconde même.
Oui, oui, ça se voit très bien et je comprends que ça vous ait ému. Nous allons passer la semaine ensemble. 5 émissions, les vies de Daniel Cordier. Dans une première émission, nous parlerons de vous comme jeune homme, comme maurassien, militant de l'Action française, issu d'une famille bourgeoise de Bordeaux. Dans une deuxième, nous aborderons votre engagement, le temps des engagements, celui qui vous fait basculer dans la résistance auprès de Jean Moulin, aussi de la droite vers la gauche. Et cette deuxième et cette troisième partie nous conduiront de Bordeaux à Lyon, de Lyon à Paris, et dans cette rencontre essentielle auprès de Jean Moulin jusqu'à sa mort en juin 1943 à Caluire. Et puis dans la quatrième émission, nous chercherons avec vous pourquoi vous avez quitté la vie politique et comment vous êtes devenu cet amateur d'art, le temps de l'art, le temps des voyages, celui de la découverte engagée avec Jean Moulin mais poursuivie pendant longtemps, d'un grand amateur d'art et d'un grand donateur aussi, d'un collectionneur. Et enfin, dans la dernière émission, devenu historien, devenu écrivain, dans une autre vie encore, vous avez développé des talents que vous ne connaissiez pas, par souci de la vérité, et nous évoquerons avec vous toutes les leçons, toutes les réflexions que vous inspire cette belle et longue existence. Alors, ce qui frappe quand même dans votre itinéraire et dans votre histoire, c'est le démarrage, parce qu'au fond, très jeune, vous êtes maurassien et vous êtes militant de l'Action française. Pourquoi est-ce que vous étiez, dans votre jeunesse de la bourgeoisie bordelaise, engagé à l'extrême droite?
Il faut que je vous donne un petit détail, c'est que mon père était un ancien combattant de 14, évidemment. Et ils se sont mariés tout de suite. Ils sont mariés en 1919 et ils m'ont créé en 1919 et je suis né en 1920. Mais ils n'ont été mariés que 4 ans. Et ils ont divorcé. Et a commencé pour moi quelque chose qui était au début. Ce n'était pas difficile parce que quand on a 4 ans, 5 ans, je suis passé de chez mon père et ma mère, chez ma grand-mère et maternelle, qui était merveilleuse. C'était une Américaine qui était très drôle, qui avait beaucoup d'humour. Mais je me suis très, très bien entendu avec elle.
C'était quelle origine sociale, votre mère?
Oh, c'était une histoire très curieuse, parce que ma grand-mère était la fille d'un Français de Béziers qui s'était engagé en Amérique pour faire la guerre de l'indépendance.
Ah oui.
Je sais pas comment. Il avait 20 ans. Et après la guerre d'indépendance, il a été député en Louisiane et il a été envoyé comme ambassadeur en Libye. Et je ne sais pas à la suite de quoi, mais il avait l'idée de libérer les Égyptiens. Alors il est parti avec quelques Libyens en Égypte et évidemment il s'est fait emballer et tout.
Un aventurier.
Et il est revenu et finalement il a été bon, ça a été fini. Et à ce moment-là, il est parti avec sa femme et ses filles. Ils ont fait un tour du monde.
Déjà ?
Ils sont allés en Chine, ils sont allés. Et puis, il a travaillé avec celui qui a fait le canal Panama. Et puis finalement, il a ramené sa femme et ses trois filles à Bordeaux. Et lui, il est parti au Canada. Je crois qu'il était parti au Canada parce qu'il était amoureux d'une femme. Et voilà.
C'est un aventurier, en somme. Une sorte d'aventurier, un peu.
Nous sommes une famille d'aventuriers.
Voilà. Et donc, votre mère est issue de ce milieu-là.
Alors, ma mère
est restée
ici
à Bordeaux.
À ce moment-là, oui. Et donc, elle s'est remariée avec Charles Cordier. Et, si vous voulez, socialement, elle retrouvait son milieu. Parce que mon père et sa famille, c'était des nouveaux riches qui avaient fait fortune pendant la guerre de 14. Et c'était très, très... Pour moi, enfant, c'était quelque chose de très curieux. C'est-à-dire que la famille qui était du 18e siècle, mon grand-père Gauthier, qui avait des propriétés, des choses comme ça, c'était des gens beaucoup plus simples, qui étaient toujours très, très bien habillés, mais pas de la même manière que mes grands-parents Bouygeau et mon père Bouygeau, qui, eux, étaient toujours, mais impeccables. Mais c'était ce mélange. Et donc, oui. En moi, il y a eu cette séparation. C'était... Et bien alors, ce qui était évidemment très, très pénible, c'est que ils ont passé toute mon enfance à faire des procès. Parce que mon père voulait à tout prix m'avoir. Ma mère et ma grand-mère s'opposaient à ce que je les voie. Et finalement, quand ma mère s'est remariée en 1927, il a fini par gagner. Et quand j'avais 9 ans, il m'a pris complètement à ma mère. Et il m'a envoyé dans un collège pensionnaire, Saint-Elme, Arcachon, c'était un très beau collège. Mais ma mère n'avait le droit de me voir tous les 15 jours que 2 heures au parloir.
Ça devait être très dur, en fait. Voilà. Ça devait être très dur. Donc, en fait, c'est à la fois un mélange entre la bourgeoisie traditionnelle bordelaise, du côté de votre mère, les nouveaux riches, du côté de votre père, une bataille familiale terrible pour vous. Et vous, finalement, vous payez les pots cassés en vous retrouvant tout seul dans un collège.
Et j'étais pensionnaire jusqu'à mon départ.
Et alors, comment on passe de cette enfance difficile, hein, à l'extrême droite, enfin à l'engagement politique maurassien qui était le vôtre?
Ah, mais ça, c'était mon beau-père, dont le père, Cordier, avait un journal à Bordeaux qui était un journal royaliste, en 1890, quelque chose comme ça. Et au fond, au moment du 6 février 34 en France...
Oui, c'est la journée, il y a eu beaucoup d'émeutes.
Voilà, j'avais 14 ans, j'étais un enfant, mais oui. Il y avait, dans mon collège, les deux surveillants qui sont partis à Paris parce qu'ils pensaient qu'on allait renverser la République.
Oui,
ils étaient Action Française, oui. Royaliste et tout ça. Puis ils sont revenus, la République a gagné, etc., etc.
Oui, rappelons un petit souvenir historique pour ceux qui ne l'ont pas en mémoire, c'est que le 6 février 34 a été journée d'émeute de la droite contre la République, et vous aviez 14 ans à l'époque, et la République a tremblé sur ses bases.
Absolument,
et les ligues de droite...
Mon premier bulletin d'adhésion que j'ai toujours à l'Action française,
C'est du 6 février 34, alors vous étiez si jeune.
Oui, mais j'étais dans le collège, il y avait un petit groupe d'Action française, et j'avais mon bulletin de collégien adhérent d'Action française à ce moment-là. Et alors, au fond, dans les vacances, je vendais l'Action française, j'ai même mon permis de vente, qui est donné par la préfecture. À cette époque-là, j'avais 16 ans. Ouais. Et je vendais l'Action française tous les dimanches, à la sortie de la messe, et ainsi de suite.
Vous étiez catholique pratiquant ou...
Oui, j'ai été catholique jusqu'à... Enfin, catholique, je suis resté catholique, mais pratiquant jusqu'à 17 ans, et puis après... Et je suis revenu au moment où je suis parti en Angleterre.
Mais au collège, parmi tous vos amis, puisque vous étiez dans ce milieu toute la semaine, c'était aussi la tendance générale, l'extrême droite et l'Action française?
Ah oui, parce que, mais vous savez, on voit toujours les gens qui ont un peu pratiquement les mêmes idées que vous. Alors dans ces affaires, mon beau-père avait tout, mais enfin, les gens qui avaient des moyens, qui étaient riches, qui étaient associés, j'imagine, c'était des gens de droite, enfin pas d'extrême droite. Non, l'extrême droite, nous étions peu nombreux. Enfin, pour vous donner un chiffre, l'Action française tirait à 40 000 exemplaires. Alors évidemment, dans des événements comme le 6 février, ou comme juin 40, ou des choses comme ça, ils tiraient à 100 000 exemplaires. Il n'y a pas. Oui. Mais c'était selon les circonstances. Et puis, il y avait les camelots du roi qui, eux, alors faisaient des bagarres. Taper sur les flics au quartier latin, c'était des bagarres. Enfin, c'est le goût d'une certaine jeunesse. Moi, j'avais ce goût-là.
Vous aviez ce goût-là. Ce goût aussi de l'action et d'en découdre, en fait. Vous vouliez,
ah oui, tout
vous
à
aviez,
fait.
Oui, d'en découdre. D'ailleurs, vous l'avez dit après, quand vous étiez en France, contre les Boches.
Oui,
mais
oui.
Sur l'antisémitisme, qui était aussi quand même un des traits majeurs de
cette
période. Et vous, ça ne vous posait pas de problème? C'était
absolument.
Comme ça.
Absolument, aucun problème. Dans ma famille, tout le monde était antisémite, sauf du côté de mon père, tout ça, parce que eux, ils n'avaient pas d'opinion. C'était des gens qui étaient dans les affaires. Ils étaient républicains, ils faisaient des affaires.
C'était moins engagé idéologiquement que
la
famille.
Non, mais mon beau-père était engagé du fait de son père, qui était un ami de Maurras, quand Maurras a créé l'Action française et tout ça, en 1898.
Alors, là, se passe à ce moment-là l'événement, évidemment, majeur, qui est l'entrée en guerre de la France contre l'Allemagne. Et d'un seul coup, à la stupéfaction, à la vôtre en tout cas, c'est le discours de Pétain, la capitulation. Et toute cette jeunesse militante d'extrême droite avec l'Action française, d'un seul coup, se trouve confrontée à un problème majeur. Quoi faire face à cette situation? Et là, vous êtes à ce moment-là au sud de Bordeaux, vous êtes...
Je suis à Pau à ce moment-là.
Et à Pau, vous vous posez la question et tout de suite, vous décidez de partir.
Ah oui, mais ça a été très rapide, vous savez, parce que après le discours de Pétain, qui a eu lieu le lundi à midi et demi, la fin du discours de Pétain, je suis monté dans ma chambre, allongé sur mon lit, j'ai pleuré comme jamais je n'ai pleuré dans ma vie. Et puis, au bout de 20 minutes, je me suis dit, mais non, c'est un vieux con, il n'est pas capable de se battre, de faire la guerre et tout, mais nous sommes jeunes, on va lui montrer ce dont on était capable. Et alors je suis parti à Pau sur ma moto, j'habitais à 25 km de Pau.
Et vous avez tout de suite compris, en entendant le discours de Pétain, que là c'est une rupture radicale, quoi, qu'il fallait...
Ah oui, non, mais c'était ignoble, c'était une infamie, c'était... Non, parce que, vous savez, le discours de Pétain a eu lieu au moment où le président de la République était en train de... Albert Lebrun était en train de partir pour aller prendre un bateau dans le Midi. Sa voiture a retourné à Bordeaux parce que dans la nuit du dimanche à lundi, le maréchal Pétain a pris le gouvernement, lui a donné le gouvernement Reynaud, qui était prêt à se battre. C'était une cassure, mais c'est
mais
vrai.
Cette cassure, vous l'avez vécue intérieurement, mais vos parents étaient, quand vous étiez chez vous, à Pau, l'attitude de votre mère, de votre beau-père...
Non, mais ma mère n'a rien dit, mais mon beau-père était partisan de se battre.
Ah oui,
ah oui. Donc, heureusement.
Et en fait, ils vous ont aidé à...
C'était un ancien combattant, vous savez, il avait failli perdre la vie, il était combattant à Verdun, et il s'était engagé quand il avait pas tout à fait 18 ans.
Oui.
Et donc, il était...
Et là, c'est le début du livre, en fait, de Alias Caracalla.
Oui, oui.
Vous êtes à Pau, vous entendez le discours de Pétain.
Je vais à Pau.
Vous allez à
Pau. Pour rassembler mes camarades, parce que j'avais une idée, enfin, sur la moto, je ne sais pas où, j'ai eu une idée très... simple pour moi, que je voulais dire à tous mes camarades, donc, qui étaient tous en classe. Moi, quand je suis arrivé à la permanence, il n'y avait personne, parce que la permanence, il venait après 4 heures, quand il sortait du lycée. Et donc, j'avais cette idée très simple, c'est d'emprunter les voitures de nos parents, leurs fusils de chasse, et puis d'aller à la rencontre de l'armée allemande qui devait descendre de Bordeaux à Bayonne par les Landes, la route des Landes, et puis de tirer avec nos fusils sur tous les tanks, les fantassins, enfin, c'est de tirer, de tuer le maximum de Boche, et puis nous de mourir, parce qu'évidemment, les Boches nous tueraient après. Mais enfin, c'était pour marquer ça. Mais ça, ça n'a eu aucun succès.
Heureusement, d'une certaine façon, parce que vous avez été plus utile après.
Oui, ah ben ça, on serait mort. Ça, y a aucun... J'avais vu clair au moins sur un point. C'est ça.
Et là, vous partez pour finalement donc pour Bayonne, après cet échec.
Oui, parce que finalement, il y a un petit détail, mais qui a son importance. Donc, après, bon, nous sommes mis d'accord le lundi, après le discours de Pétain, pour faire un tract. Et ce tract, c'était l'annonce d'une réunion. Parce que dans l'Action française, quand il y avait un problème politique, on faisait des réunions. Et donc, là, on a fait une réunion. Et donc, voilà.
Et vous avez décidé de partir.
Et donc, on a décidé de partir. Et mon 17. Beau-père, parmi les affaires de mon beau-père, il était propriétaire des autobus de Pau. Et donc, il avait une ligne quotidienne qui allait à Bayonne. Et mon beau-père a dit, ben, écoutez, après ta réunion, je mettrai à ta disposition autant d'autobus que tu voudras. Et il y avait 4 autobus. Nous étions à peu près une centaine. Et puis alors, l'armée s'est mise à la sortie des autobus. Il n'était pas tout à fait 10h du soir, parce que depuis le matin, il y avait une interdiction de l'armée de circuler de 10h du soir à 6h du matin. Et le premier autobus dans lequel j'étais, qui est sorti du garage, on nous a fait rentrer dans le garage. Et alors, après, nous avons eu une idée, c'est un de mes camarades qui a eu cette idée, de prendre l'autobus normal le lendemain matin à 7h pour Bayonne, parce que ça circulait, il n'y avait pas d'interdiction.
Oui.
Mais le lendemain matin, nous étions 15 dans cet autobus. 17 dans cet autobus. 17.
Et là, vous avez, vous sautez sur le premier bateau en partance, vous pensez partir pour l'Afrique, et en fait, vous vous dirigez vers l'Angleterre sans le savoir.
Parce qu'il y avait un ministre belge et que le bateau était belge. Et il a eu une grande discussion avec le capitaine. C'était un transport de maïs, le bateau entre l'Amérique du Sud et la Belgique. Et donc, je ne sais pas s'il l'a payé, enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, et le lendemain matin, le capitaine m'a annoncé, nous allons en Angleterre. Et j'étais effondré, parce que je voulais partir en Afrique du Nord.
Vous retrouvez les Français d'Afrique du Nord.
L'armée française et continuer le combat. Et puis,
Première déception, mais enfin, premier engagement majeur, quand même, qui a ensuite conditionné le reste de votre vie.
Oui.
Donc, vous montez sur ce bateau, croyant partir pour l'Afrique du Nord, vous apprenez que vous partez en Angleterre.
Ah, mais le lendemain matin.
Le lendemain matin. Et alors, là, vous le racontez, quand vous arrivez à proximité des côtes anglaises, pour vous, l'Angleterre, c'est un pays ennemi.
Ah, tout à fait.
C'est ça qui est étonnant, c'est que vous avez...
Oui, les Anglais... il faut vous dire que mon enfance, mon grand-père, le père de ma mère, était bonapartiste. Il s'est même battu en duel contre un homme qui était contre Napoléon. C'est vous dire l'état de sa foi. Et donc, mon enfance a été bercée par la vie de Napoléon. Et chaque fois qu'on parlait de Napoléon, il y avait une tension intérieure dans mon grand-père, et je sentais qu'il était parfois au bord des larmes quand il racontait la vie de l'empereur, et ainsi de suite.
Oui, et donc,
et alors, ben oui, alors arriver en Angleterre, c'était des adversaires.
C'est la perfide Albion.
Je me suis demandé, quand nous avons vu l'Angleterre, c'était très joli, je m'attendais pas du tout à ça, parce que ça ressemblait aux côtes de France, c'était très gai, il y avait, l'été 40 était superbe partout. Mais, je me suis dit, est-ce qu'ils vont nous accepter? Parce que les Français qui débarquent, les Français qui ont perdu la guerre, etc., etc. Et puis, en débarquant, et accepté par les Anglais, et puis nous avons été en contact très rapidement avec la population, avec les gens qui prenaient tous les renseignements et tout ça. Et c'était tout à fait un autre milieu qu'en France. C'était des gens d'abord beaucoup plus élégants. Ça me frappait beaucoup. Dans le train, on voyait des paysans qui étaient en chapeau de feutre et puis avec des costumes, ils avaient un gilet. Le gilet que on avait sous une veste, ils étaient en gilet avec des chemises. Enfin, c'était tout à fait étonnant. Je me suis rendu compte que la France était beaucoup plus pauvre
que l'Angleterre.
C'était tout à fait un autre stand-in. Et puis, l'accueil des Anglais était unanime et très, très, très amical. Quand nous avons été libres à Londres, nous sortions constamment. Il y avait des Anglais qui nous invitaient dans les bars pour boire une bière, n'importe quoi, et vive la France. Et ça, c'était très, très étonnant. Quand je pense à l'Antibes.
C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Jérôme Clément rencontre Daniel Cordier. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Frédéric Kérou. Réalisation, Isabelle Huel. Coordination, Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jérôme Clément avec Daniel Cordier.